Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. 10 milliards d'euros trouvés en urgence par décret d'annulation de crédit. Puis voilà que les 12 milliards d'économies 2025 sont devenus 20 hier. Dans la bouche de Thomas Cazenave, il est clair qu'après la dépense d'État, c'est la dépense sociale qui va trinquer. Quand on compare la dépense publique OCDE et la dépense publique française, il y a 10 points d'écart. 48 en gros OCDE, 58%. La France. Et sur ces 10 points, vous avez plus de 6 points, c'est de la dépense de santé et de la dépense sociale. Emmanuel Macron prend garde avant les européennes, visiblement, et refuse que l'on sous-indexe les pensions des seniors en 2025, de retraite, bien sûr. Oui, c'est les retraités qui votent en majorité. En tout cas, je sens de la fébrilité à Bercy, une forme presque de panique dans le pilotage du budget. J'ai rarement vu une telle urgence pour aller dans toutes les directions, essayer de montrer des signaux de sérieux budgétaire avec une telle célérité. Alors après, c'est anecdotique, on nous parle de simplification, mais vous savez qu'un observatoire des haies va voir le jour. Après, toutes ces polémiques sur les normes autour des haies. Ce chiffre m'a frappé, ma prime rénov' est en train de s'écrouler. On a modifié les conditions d'accès à ma prime rénov', désormais c'est pour des rénovations globales. Moralité, le nombre de dossiers a chuté de 40% en janvier et février de cette année, comparé aux deux premiers mois de l'année 2023. Et nous avons le baromètre Odoxa, AJP, Challenge, BFM Business, qui a essayé d'observer dans toutes les directions ce qui séparait les hommes et les femmes dans notre pays, que ce soit la vie professionnelle, mais même la perception du risque. Vous verrez, il y a énormément d'éléments très instructifs dans cette moisson du mois de mars. Bonjour Isabelle Job-Basile.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue. La peur du risque. Directrice des études économiques de Crédit Agricole et ça. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi.
Bonjour.
Président fondateur du Cercle des économistes et président de l'association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit Partage vertueux entre salaire et profit, croissance égale 2/3 de salaire et 1/3 de profit chez Economica. Je vous redonne la parole dans un instant pour évoquer un événement qui vous concerne aujourd'hui. Gaël Sliman, bonjour.
Bonjour.
Le président d'Odoxa avec le baromètre AJP Challenge BFM Business. Comme chaque mois, cet après-midi, votre chair organise un événement, Jean-Hervé Lorenzi, dans les locaux de la SCOR, le réassureur, installé avenue Kléber, à côté de l'Étoile. C'est public. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'essayer de commencer à éclairer un déni absolu. Il ne vous a pas échappé qu'à juste titre, on parle heure par heure du changement climatique, la décarbonation, des coûts, ce que représente. On voit bien que, de toute façon, on est en train de trouver un équilibre qui n'est pas celui qui était annoncé. C'est évidemment trop important. Mais le vieillissement est vraisemblablement plus onéreux, plus compliqué, plus difficile...
Que
la transition verte. Ce que la chaire a calculé, c'est que en fait, en 2030, c'est-à-dire demain matin, le coût du vieillissement, c'est 90 milliards de plus, une centaine de milliards de plus.
Que le coût actuel.
Que le coût actuel.
Dans le coût actuel, vous mettez retraite plus dépendance.
Plus spécifique.
D'accord. Ça veut dire qu'on est à 500 milliards par an de dépenses du vieillissement.
Par an, que c'est absolument majeur. Alors, on va découvrir ça de manière... j'allais dire mondial, le vieillissement, c'est-à-dire le fait que l'âge moyen de la population augmente, c'est un effet, un impact qui est absolument déterminant sur l'ensemble des équilibres sociaux, politiques, économiques, mais d'abord et avant tout financier, la dépendance, mais personne n'en sait rien, peut-être qu'on va trouver des médicaments miracles sur notamment les maladies neurodégénérescentes.
Mais Neuralink va nous rendre éternel.
On l'espère. Mais l'ensemble, ça, plus les retraites. Vous avez parlé de la sous-indexation que le président, à juste titre, et j'en remercie à titre personnel.
Il ne veut pas la faire, la sous-indexation.
Oui, il n'en veut pas. Donc, merci, monsieur.
Vous savez que je peux vous mettre des économistes qui vont vous dire qu'il faudrait carrément désindexer. Hein. Non, on va pas ouvrir le
débat. Je pense qu'il y a toute une série de sujets, notamment le fait que la dépendance pourrait être prise en charge assez largement par les traités. Donc il y a des tas de débats, mais n'oubliez pas ce chiffre, 90 milliards de plus par an. Alors que l'on dit que la décarbonation, ce serait le rapport Pisani-Ferry, c'est 66 milliards de mémoire par an. Donc c'est plus important, plus déstructurant d'une société, parce que j'ai l'histoire du natalisme et présenté souvent comme quelque chose d'un peu d'extrême droite et tout. Non, une société avec des jeunes, c'est plus rigolo qu'avec des vieux comme moi, évidemment.
Je ne sais pas si c'est Nathalie. Enfin, le 90 milliards de plus en 2030.
C'est
ça
géant.
Veut dire que la facture des vieux, retraités et dépendants, c'est 500 milliards par an.
Bien sûr. Et n'oubliez pas, dernier point, donc on a cet après-midi...
C'est la chair du bien vieillir. Enfin,
voilà, comment on rend les EHPAD plus humains, comment on finance tout ça, il y a tas de solutions.
Il faut mettre des animaux dans les EHPAD.
Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est fait.
On est en train de se demander si
fait. Les animaux de compagnie, ça va être autorisé.
Mais, ça a été un sujet.
Non, mais d'abord, il faut essayer de régler des sujets comme Orpea, qui était absolument monstrueux.
La bourse s'en est occupée.
Oui. Mais il y en a encore une autre qui a fait faillite.
Oui.
Enfin, c'est compliqué. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que, vous l'avez indiqué, les gens qui votent, ce sont plutôt les vieux. Mm-hmm. Et donc, lorsqu'il va falloir faire les choix entre la transition environnementale et le choix sur le climat, où le vieux se dit « je ne serai plus là », et le choix sur les EHPAD, je pense qu'en tout cas, il y a une réflexion stratégique sur stratégie politique à regarder de très près, mais ça gagne.
Gaël va réagir. Vous avez vu ce que le Canada a décidé ? Ils ont décidé un moratoire de 3 ans sur la taxe carbone concernant les livraisons de mazout au Canada, parce que tout le monde râle. Et je pense pas qu'on va comme ça faire des moratoires sur les dépenses concernant les personnes âgées. Par contre, on en fait sur les engagements verts. Partout, ça recule dans tous les sens sur les engagements verts.
Je veux dire, un dernier mot, c'est que entre le discours qui était un discours légitime, sympathique, auquel j'adhère, qui est de dire, on se fixe d'objectifs qui sont en fait assez ambitieux de ralentir de manière très significative la hausse de la température, et ce que disait déjà Monsieur Pouyanné, ça, il va falloir s'adapter. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On voit bien, on va tout à l'heure parler des logements et de l'aspect thermique des logements. On le voit bien sur les agriculteurs. Partout, il y a un équilibre qui se fait, parce qu'une société, c'est un peu plus compliqué que uniquement la décarbonation.
Allez voir le dessin de CAQ à la une de l'opinion aujourd'hui. Vous voyez Emmanuel Macron qui est là avec un panneau sans interdit, puis une ambulance qui arrive avec marqué transition verte. Et le panneau sans interdit, c'est pour laisser le temps de traverser aux gars du BTP, à l'agriculteur. voilà. Ça vous faisait réagir, notre histoire de...
Oui, bien sûr.
Non, parce que je trouve, effectivement, quand il va falloir arbitrer entre les dépenses concernant ceux qui ne seront plus là et les dépenses vertes, allez-y, Gaël.
Et la troisième transition, ne pas l'oublier, le numérique.
Oui.
Si on veut mettre un paquet, si on veut être présent dans le numérique, il faut mettre, vous avez vu ce que font les Allemands, pour avoir Intel, ils mettent 17 milliards, l'État, il va leur mettre 30, 40, 50 milliards par an. Non, là, c'est sérieux.
Pour l'instant, on cherche 30 milliards en 2 ans. Oui. On va y revenir, Gaël.
Jean-Hervé a ouvert un paquet de routes, là, un paquet de chemins.
Bah, d'ailleurs, je vais déchirer le programme de l'émission, puis on va parler d'autre chose.
Donc, il y a les sous dans les caisses.
Ouais.
Il y a ce sujet qui m'intéresse et que je suis de près sur l'impact, parce qu'on fait beaucoup d'études en santé à Odoxa, donc l'impact du vieillissement sur les sociétés et notamment sur la nôtre. Juste comme ça, hein, on est à 13 ou 14% de gens en France qui sont des aidants familiaux. Ça veut dire, souvent des femmes d'ailleurs, qui s'occupent de leur papa ou de leur maman, qui elles-mêmes sont souvent déjà pas si jeunes que ça, les aidants ou les aidantes. On est sur des sociétés où on a de plus en plus de maladies qui sont liées au vieillissement, et donc évidemment ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, et après, si j'enlève ma casquette sondage santé publique pour mettre la casquette sondage politique, oui, c'est un vrai sujet ce que disait Jean-Hervé sur l'arbitrage à faire d'un pur point de vue cynique et électoraliste. Vous avez un scoop, hein, en 2022, la dernière présidentielle, si juste on avait fait ce qui a été envisagé à certains moments de l'histoire de France, on s'était dit, seuls les gens qui travaillent et donc qui ne sont pas à la retraite votent. Si on avait fait ça, si on avait dit, dès lors que vous arrêtez de travailler, que vous êtes à la retraite, vous ne votez plus, eh bien nous aurions Marine Le Pen comme présidente de la République.
Non mais ça, je suis pas surpris. Mais...
Non mais, donc mais ça veut dire que, pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Hervé, vous avez une vie politique française où le vote des seniors est très important. Alors, ce sont pas les plus nombreux, bien sûr, mais ce sont ceux qui, en proportion, votent le plus.
Oui.
Alors que, avec un taux de participation qui est massif, alors que chez les jeunes, selon les scrutins, on est souvent à moins d'un sur deux. Donc, vous avez tout intérêt à avoir les vieux, si j'ose dire, dans votre poche, plutôt que les jeunes, quitte parfois à parler de la jeunesse, parce que ça séduit beaucoup les seniors. Mais sur les sujets sur les sujets de vieillissement, de bien vieillir, sur les sujets de retraite, sur les sujets de pension, évidemment que l'homme politique ou le président de la République qui prendrait des mesures anti-vieux, entre guillemets, se verrait sanctionné très lourdement sur le plan électoral, et que Emmanuel Macron, par exemple, aujourd'hui, on voit Marine Le Pen progresser énormément auprès de l'électorat senior, comme dans toutes les catégories de la population, mais aujourd'hui, c'est encore celui qui résiste. C'est-à-dire que s'il n'y avait à l'inverse que les plus de 65 ans qui votaient, il serait réélu aisément.
L'événement, c'est cet après-midi, je lui donne la parole à Isabelle, bien sûr, c'est cet après-midi, la conférence du bien vieillir.
Voilà, 14h30 à la SCOR.
À la SCOR.
Avenue Kléber.
Avenue Kléber. Ce qu'on a dit là, Isabelle Jobasil, ce que ça peut vous inspirer comme réaction?
Oui, peut-être des petites réactions.
S'il va falloir les trouver, les sous.
Enfin voilà, sur la dépendance, on sait très bien, bien évidemment que c'est un sujet. Et en fait, il y a eu des initiatives privées, dans les assurances, notamment, de faire de l'assurance dépendance. Ça ne marche pas. On a beaucoup de mal.
Ça marche pas,
les produits
ça ne se vend pas, quoi.
Ça se vend très très mal. Alors peut-être que c'est aussi les assureurs qui ont peut-être du mal à parler, enfin ceux qui vendent le produit ont du mal à parler de la dépendance, mais à tout le moins il n'y a pas un intérêt très grand des clients pour s'assurer sur leur dépendance. Il y avait aussi l'idée de liquéfier les patrimoines immobiliers pour justement financer la dépendance.
Ça veut dire vendre des biens immobiliers.
C'est un peu l'hypothèque.
Ouais, voilà, c'est
les
ça,
idées. Enfin voilà.
Ouais.
Et c'est pareil. C'est encore. C'est ça a du mal à rentrer dans la culture et donc des difficultés à proposer des alternatives que un financement public possiblement.
Et moi je commence
public.
À croire à l'idée de Jean Hervé. Hein. Au début quand il me disait que fallait mobiliser l'épargne et comme elle était chez les personnes les plus âgées, fallait une garantie sur les sommes engagées de l'État, je commence à me demander si c'est pas la seule solution. Ça fait longtemps qu'il en parle, mais...
Dites-vous bien que le plus grand succès de politique économique qui a été fait, c'est le PGE. Mm-hmm. C'était étonnant que Bercy, brutalement, se mette à être à toute allure à faire 150 milliards de garanties. Ça n'a pas coûté très cher. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. C'est garantir l'épargne. Il faut utiliser l'épargne.
Mais il n'y a pas que sur le vieillissement, d'ailleurs, on le dit aussi pour la transition. Ah bon. Pour la transition que l'État doit jouer un rôle d'assureur, de garantie pour pouvoir financer une partie de la transition d'accès. C'était le premier élément. Le deuxième élément, les arbitrages, j'ai l'impression qu'ils sont déjà faits. Enfin, moi, de ce que j'ai entendu sur les coups de rabot, etc., c'est l'écologie. Enfin, l'écologie paye un lourd tribut en termes de rabot. Oui. Alors même qu'on en a parlé, qu'on a eu une augmentation des retraites qui a suivi peu ou prou, enfin plus que l'inflation, parce que je crois que c'était
5,3
à l'automne dernier. Donc on voit bien que les arbitrages vont plutôt en faveur des retraités ou des seniors. Et dernier élément, gérontocratie, on parle un peu de ça, c'est aussi la question du risque derrière, la capacité à prendre du risque. Et on sait que c'est un facteur qui aussi crée de la croissance de demain. Donc ça pose plein de questions
qui sont du
autour.
Risque et le rôle de l'État qui pourrait être un assureur justement du risque pris, pas du rendement, mais du risque pris. C'était Jean-Marc Daniel qui me disait à propos justement du vieillissement, aujourd'hui on a un pays qui est un pays en soins palliatifs, c'est le Japon, et on sera bien. Et nous, on va passer de l'EHPAD aux soins palliatifs un de ces jours aussi. Probablement que les Allemands nous précéderont. Pourquoi vous êtes arrêté en disant, je ne sais plus, sur...
Parce que je pense que, en fait, les 10 ou 20 milliards, ça fait partie de l'actualité aujourd'hui, mais c'est quand même, quand on regarde par rapport aux 500 milliards du budget, en gros, c'est pas non plus la fin du monde.
Certains vont vous dire que c'est de l'austérité quand même. Vous allez voir, aujourd'hui, ça va être un gros sur l'austérité et la rigueur.
La réalité, c'est que si on veut faire de la décarbonation, on veut s'occuper des vieux, si on veut être dans l'intelligence artificielle pas complètement nulle, il nous faut 150 milliards de plus par an. 150 milliards, pas 10, pas 20, 150. 150, il faut bien le trouver quelque part. On va le trouver où? Dans l'épargne des Français. Mais comme on est des vieux qui ont horreur du risque, évidemment, il va falloir garantir. Plus les rachats d'actions, entre nous, c'est quand même pas le truc le plus malin qu'on puisse imaginer. Plus les
vous imaginez sur les rachats d'actions?
Moi, je suis contre les rachats d'actions.
Contre.
Je suis pour que. Mais les trois mots. Je vais faire mon Attal. Investir. Oui, investir. Mais que ça qui compte.
Quand on a dit qu'on est contre les rachats d'actions, ça signifie quoi comme choix politique ?
Eh ben, ça signifie de les dissuader. Alors, voilà, j'ose pas le dire. Interdire parce que je vais être insulté par les gens qui vous écrivent, mais dissuader, des formules beaucoup plus diplomatiques. On va peut-être pousser les gens à ne pas. Il faut que l'argent de notre pays serve par rapport à ces trois transitions, investir. Il n'y a que ça qui compte. Et évidemment, les caisses ne sont pas vides. On va claquer 490 milliards l'année prochaine. Ce n'est pas des caisses vides, ça. Mais
ça, c'est la dépense de l'État dont vous parlez.
Dépense, mais on n'a pas le moyen de faire face aux transitions. Il faut faire de l'intelligence artificielle, des EHPAD et de la décarbonation.
Je réagis. C'est vrai qu'on parle de ces 20 milliards. Certains vont appeler ça de l'austérité. Non, simplement, c'est pour corriger les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'on a eu de manière concomitante des mauvaises nouvelles, à savoir que le déficit de 2023 va être plus élevé qu'attendu. Hein.
C'était 4,9 attendu, on sera au-delà de 5.
On sera au-delà de 5, donc on part plus haut pour atteindre les 4,4% dans un contexte où la prévision de croissance a elle-même été révisée à la baisse.
Et les recettes de 2023 sont revues à la baisse.
Voilà, 1,4 à 1. Donc voilà, c'est simplement corriger le tir pour rester dans la trajectoire budgétaire, mais ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas créé les marges de manœuvre pour faire... On aura besoin encore de faire plus pour se créer les marges de manœuvre, pour financer toutes les transitions que l'on doit financer.
On a 2 minutes 40 avant de marquer une pause. L'idée des Allemands, là, lancer un fonds souverain qui d'abord est lancé sur de l'argent public et qui sera un fonds, en fait, un fonds de capitalisation, mais qui ne placera pas l'argent des travailleurs allemands, mais qui placera de l'argent public. Mmh. Avec objectif, d'ici à 10 ans, d'avoir 200 milliards sous le coude.
Alors je rappelle pour ceux qui l'ont oublié que M. Jospin
a créé un fonds de réserve des retraites.
Avait créé le fonds de réserve des retraites
99
qui devait être alimenté par les recettes des privatisations. Il faut 200 milliards pour démarrer le truc, pour que ce soit près sérieux.
Mais non, il faut pas 200 pour démarrer, mais l'objectif c'est à terme d'avoir ce type d'encours.
Si
les Allemands mettent 12 milliards d'emprunt public et ils ajoutent 15 milliards d'actifs publics au départ.
Mais nous, on avait fait le calcul. Enfin, il faut beaucoup plus d'argent. Mais pour maintenir les retraites et ces collectifs, donc il n'y a pas ce débat à la française nunuche qui consiste à dire capitalisation contre répartition. Enfin, tous ces débats sur lesquels qu'on adore et qui servent absolument à rien. Donc, puisque c'est une capitalisation collective, et donc ce fonds de réserve des retraites, c'était une super idée. Lancé par un gouvernement socialiste, donc il n'y avait pas de crime contre la réflexion positive, et il se trouve qu'il a été complètement, détruit progressivement, piqué, l'argent était piqué, il n'a jamais été alimenté, il est aujourd'hui à 21 milliards. Il faut le faire 21, il faut atteindre...
25 ans après, il est à 21 milliards 3, notre fonds réserve des retraites.
Oui, on l'a, notre fonds.
Mais il y a un exemple à suivre, Isabelle, là.
C'est très clair, il n'y a pas que l'Allemagne, beaucoup de pays nordiques...
Ils sont vieillissants à côté de nous.
D'accord, mais beaucoup de pays nordiques qu'on ne peut pas taxer d'ultralibéral, etc., ont choisi à un moment donné de mettre une couche par rapport à une retraite de base financée par la répartition, une couche supplémentaire de capitalisation. Et donc oui, bien évidemment que c'est une voie à explorer. Ouais. Sur la base, je pense qu'il faut démontrer par l'exemple que si on avait placé X argent qu'on aurait récupéré au bout de temps, etc., c'est la preuve par l'exemple. Il y a quand même, on a le mécanisme pré-fonds, donc puisqu'on parle de la fonction publique, alors c'est volontaire, mais c'est de la capitalisation. Et puis on a aussi un autre mécanisme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a certaines primes au niveau des fonctionnaires.
Les RAF.
Voilà, exactement, qui sont investis sur les marchés financiers, etc. Et le conseil d'administration, ce sont les représentants des syndicats qui gèrent. Et ça serait intéressant de les interroger pour savoir s'ils y voient un inconvénient.
Et Agirc-Arrco, il y a de la capitale dans Agirc-Arrco.
Donc c'est simplement, de démystifier le côté qui n'est pas égalitaire de cette retraite par capitalisation.
On marque une pause. Ce qui est finalement, on a un peu digressé sur l'actualité économique du jour, mais là, on vient de parler des masses astronomiques. Eh bien, on va revenir au petit rabot traditionnel dans quelques minutes. Après, on s'intéressera à ce que nous raconte le baromètre d'Oxa AJP pour ce mois-ci, tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nicolas Dose accueille les experts.
Isabelle Job-Basile, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui a coécrit « Partage vertu entre salaire et profit ». La croissance est égale à 2/3 de salaire et 1/3 de profit. C'est publié chez Economica et il organise donc une conférence sur le bien vieillir à 14h30 au siège de la SCOR, avenue Kléber à Paris. Si vous nous avez écouté depuis le début de l'émission, vous êtes au courant. Il y a un auditeur qui a pris au sérieux le fait qu'il fallait retirer le droit de vote aux retraités. Non, c'était pas du tout l'idée de le retirer. C'était si, imaginons que si, voilà. Non mais je
pas sûr qu'il l'ait pris au sérieux.
Tu vas pas sortir vivant.
Pas sûr qu'il l'ait pris au sérieux.
Bon, qu'est-ce que je vois encore? Bon, je vais pas détailler dans tous les sens là les 12 milliards d'économies de 2025 devenus 20 milliards. J'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est votre... Ça fait quand même longtemps que je suis la macroéconomie, la vie économique, la gestion budgétaire année par année. J'ai rarement vu autant d'urgence. J'ai rarement vu autant de fébrilité, trouver 10 milliards tout de suite par décret, entre le moment où c'est annoncé, le moment où le décret est au JO, le moment où les ministères remettent leur copie, ça ne coule même pas 3 semaines.
Oui, oui.
Là, on nous sort 12 milliards qui deviennent 20. On flippe à Bercy, vous croyez, Jean-Hervé Lorenzi? Plus que d'habitude?
Oui, enfin, je pense que le ministre est dans une situation politique qui, vis-à-vis du président, le ministre Le Maire, est vis-à-vis du président, enfin, il veut maintenant marquer sa décision. Donc, on est dans la communication et du politique par rapport aux agences, par rapport au président, par rapport au pouvoir public, par rapport à Bruxelles. Il peut pas faire autrement, là, je veux dire, à mon avis.
Donc, il faut vraiment, par tous les moyens, aller chercher ces milliards pour montrer que...
Il n'y a pas de solution.
Ah oui, d'accord.
Par ailleurs, il y a aussi un sujet politique, mais cette fois d'ambition personnelle aussi, de sujet personnel pour la succession d'Emmanuel Macron. Il y a quand même, au-delà des sujets économiques sérieux, j'ai envie de dire, il y a aussi des raisons sur les positionnements personnels des uns et des autres qui jouent. Aujourd'hui, l'élection présidentielle de 2027, elle sera gagnée par... Édouard Philippe, Gabriel Attal ou Bruno Le Maire, si jamais ce n'est pas Marine Le Pen. Donc chacun de ces trois-là, et peut-être un inconnu qu'on n'envisage pas encore, va se positionner. Bruno Le Maire, il est sur une ligne de récupérer l'électorat des LR, parce que c'est eux qui feront la bascule. Sur les questions de rigueur budgétaire, de sérieux budgétaire, d'éviter les déficits et les gabegies, c'est un positionnement politique qui séduit l'électorat de droite. Donc là-dessus, à mon avis, il y a aussi une volonté de se positionner personnellement, parce que Bruno Le Maire, ça fait déjà de nombreux mois qu'on l'entend se positionner sur ce côté rigueur, sérieux...
Pas de hausse d'impôts.
Exactement. Ouais. Et on a vécu 4 ou 5 années pas du tout perçues par les Français, qui ont été des années de bonnes réussites, de grandes réussites sur le plan du chômage. Et on rentre dans une année où les choses vont être un petit peu différentes, et peut-être pendant un petit moment. Donc c'est aussi ça qui explique les positionnements des uns et des autres, à mon avis.
Isabelle Job-Basile, lecture économique d'une réalité économique qui fait que Bercy
on a connu des situations économiques pires qu'aujourd'hui. Nicolas.
C'est politique, oui. Non, mais je sais.
On a connu des situations bien pires sans avoir des réactions politiques aussi spectaculaires ou urgentes. Pardon,
oui. Non, mais je suis assez d'accord que c'est un sujet davantage politique. Il y a une question de crédibilité derrière quand on va s'engager à un moment donné dans des campagnes électorales où il y a certains partis, je ne citerai pas celui de Marine Le Pen, qui nous parle beaucoup de dépenser davantage sans vraiment savoir comment elle finance cela.
La lutte contre la fraude.
Voilà, oui, à part la lutte contre la fraude qui est l'alpha et l'oméga, mais bon, c'est.
Et la préférence nationale aussi.
Donc on se dit. Qu'il faut apporter un message de crédibilité.
Qui séduit les seniors en plus.
Et qui séduit les seniors.
Le senior est séduit par l'idée qu'on va.
Alors, non, si c'est passé sous lui.
Ah oui, voilà.
Mais non, le senior est séduit. Vous avez évoqué, on en parlera avec les femmes tout à l'heure, le sujet de l'aversion au risque, qui est un sujet plus français que dans d'autres pays, chez d'autres voisins européens, et qui est un sujet, on le dira. montrerai tout à l'heure, plus féminin que masculin, et qui est beaucoup plus chez les personnes âgées, qui ont quelque chose à perdre, que chez les tranches d'âge. C'est pour ça que les 25-64 ans ont tendance, eux, à voter pour des partis anti-système, alors que les plus de 65 ans, ils préfèrent la sécurité et éviter de faire des vagues.
Mais moi, je pense que le pire, quand même, c'est de donner l'impression qu'on fait ça dans l'urgence.
Mais c'est pas une impression quand même.
Là. Oui, cette impression de panique de faire ça dans l'urgence. Vous avez évoqué tout à l'heure l'écart de dépenses publiques dans le PIB entre l'OCDE et la France. Franchement, cet écart ne me choquerait pas, puisque après, c'est des choix collectifs qui peuvent être faits, si derrière, il n'y avait pas la perception, et la perception qui n'est pas qu'une perception, de dégradation des services.
De ne pas en avoir pour son argent.
Voilà, de ne pas en avoir pour son argent. Donc peut-être qu'il faut travailler sur expliquer, peut-être que les gens ont l'impression qu'ils n'en ont pas pour leur argent, et peut-être leur dire qu'ils se trompent un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même ça, où il y a vraiment une interrogation à avoir sur le mieux d'État. Peut-être pas nécessairement le moins d'État, mais en tout cas le mieux d'État.
Jean-Marc Daniel était là ce matin, il a été au Trésor au moment de la rigueur, et au budget plutôt au budget. Et lui, il a la conviction qu'on est... Alors on est différent des autres sur la perception du risque, on est différent des autres sur la capacité à maîtriser nos dépenses et travailler sur leur efficacité. Il avait l'air de dire, Jean-Marc, comme m'a dit un jour François Eyckel, objectivement, je pense qu'on ne sait pas le faire et qu'on ne saura jamais le faire.
Oui, après, maintenant, vous avez des outils.
Je commence dramatiquement à le croire.
Oui, mais après, il y a des outils. On a parlé du numérique. On a des outils qui peuvent quand même aider à gagner en efficacité et en efficience.
Non. Après, si Xavier Tabou était là, il vous dirait entre les 48% OCDE de dépenses publiques et 58 francs.
Oui, c'est pour ça que je ne
dirais
pas.
Non, mais attendez, nous, on a choisi d'avoir un modèle social collectif.
Exactement, mais c'est pour ça que je suis pas que cet écart existe. Pourquoi pas? Enfin, c'est un choix, comme je dis. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on assume ce choix collectif? Mais c'est ensuite, on a l'impression, enfin, les ménages français, les citoyens français ont l'impression que la situation s'est fortement dégradée par rapport au passé, plus d'argent.
Il ne faut pas que dans les classements internationaux, notre éducation nationale, écoles soient jugées bien pire que ceux de pays qui investissent moins que nous dans l'école.
Non, mais l'école, c'est le sujet où la dégradation est indiscutable. Voilà, donc après, on peut se demander si on est mieux protégé, moins bien protégé, mieux soigné, moins... Mais l'école, ça, c'est... Vous vouliez réagir, Jean-Hervé?
Oui,
je voulais quand même vous proposer de réagir sur 2-3 mesures d'économie un peu précises qui s'annoncent, mais allez-y.
Oui, non, juste pour dire que on est au début de la discussion, parce qu'en fait, c'est pas les 10 milliards qui vont changer la face du monde, ni les 20 milliards, excusez-moi, mais c'est pas... Ça va alimenter le débat de la semaine qui vient, mais pas plus. En revanche, ça fait un mois que j'entends des personnalités politiques diverses et variées mettre en priorité le fait que c'est les 32% de protection sociale qui, en réalité, doivent faire l'objet. C'est là où il y a des modifications. Vous l'avez redit tout à l'heure, 6,9, non ?
6,1 points sur 6,1 les 10 points d'écart. C'est santé sociale.
Santé sociale. Et c'est évidemment là-dessus que les sujets vont apparaître de manière forte. Tout à l'heure, je parlais des 90 milliards. Mais 90 milliards, dedans, il y a
près de
la moitié qui sont le fait que les retraites... Là, on retombe sur notre sujet favori, les retraites. Si on les indexe sur une croissance très faible, qui est quand même le risque des 4-5 ans qui viennent, ça coûte une fortune. C'est plus les 14%. On va se retrouver à 15 ou 16% du PIB qui vont être consacrés aux vieux.
Si on les indexe.
Si on continue à maintenir le niveau de vie des retraités. Donc c'est énorme le sujet. Les sujets sont évidemment sur la protection sociale, sur la santé et sur les retraites.
Bon, l'indexation des retraites, enfin en tout cas le fait qu'on ait une augmentation de 5,3%, ça coûte quand même 14 milliards.
Enfin, 14,5.
Pas un petit montant.
Ah non, on est bien d'accord. Si on avait fait un point d'indexation en mois, 4,3, on a 2,7 milliards d'économies.
2,7 milliards d'économies. Donc, on aurait pu couper un peu la poire en deux.
Oui.
Sachant qu'en plus, 5,3, ce n'est pas l'évolution des salaires en moyenne en France.
Non, c'était...
Donc, ça veut dire que les écarts de niveau de vie qui sont plus en faveur aujourd'hui des retraités, c'est encore un peu creusé avec cette mesure.
2-3 pistes parmi celles qui sont en train d'apparaître. Alors, Thomas Cazenave sur BFM TV disait ce matin, mais on va travailler main dans la main avec le Parlement, on va faire 4 mois de débat collectif. En attendant, Réforme d'assurance chômage, on y va, c'est sûr. Et on commence à parler de monter la CSG réduite dont bénéficient les indemnités chômage. Transport sanitaire en taxi, c'est lancé. Il est question de toucher au remboursement quasi intégral des affections longue durée. Bruno Le Maire veut s'attaquer aux arrêts maladie et à l'absentisme dans la fonction publique, considère qu'on ne peut plus aider le cinéma autant, qu'il va falloir tailler dans des aides aux entreprises, on n'a pas de détails, et même peut-être le grand programme d'apprentissage auquel vous tenez tant pourrait pâtir.
Voilà une décision stupide.
Rien n'est décidé, Jean-Hervé.
Oui, non, mais on,
mais on est.
Mais voilà une décision stupide.
Là, c'est
pour la jeunesse.
Là, c'est
vraiment. Alors, tout économiste qui se tient bien attaque toujours sur le fait qu'il y a des effets d'opportunité, Mais ça, il y en a toujours dans toute décision.
Oui.
Mais il se trouve qu'on est passé de 200 000 à 1 million. Moi, c'est les chiffres qui comptent. Après, l'OFCE explique qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait plus cibler. Ça, c'est les baratins des économistes habituels. Mais il se trouve que c'est un truc qui marche.
Alors, ça vous choque, ce que je vous ai donné comme petite liste, là? Vous êtes choqué qu'on touche à l'assurance chômage alors que ça se dégrade, qu'éventuellement on monte la CSG des indemnités chômeurs, qu'on se dise que le taxi a une rente depuis des années et que ça a assez duré?
Il y a une seule chose que je ne dirai jamais, que j'ai fait par bêtise d'ego, un dimanche soir sur TF1, très loin d'ici, j'ai voulu dire que la CSG des retraités pourrait retrouver le niveau de la CSG normale. Le lendemain matin, ça a duré 10 secondes, mais c'était
menace de
ça
mort,
mettait en valeur. Le lendemain, je recevais des insultes.
Des cercueils.
Mais qu'est-ce qui avait justifié?
Prudence sur les CSG. Déjà, Gaël était appris agoriste tout à l'heure.
Mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui avait justifié d'ailleurs que la CSG soit inférieure pour les retraités? Parce qu'il faut comprendre aussi la logique. Il peut y avoir une logique. Moi, je ne la trouve pas. Mais il y avait peut-être une logique.
Surtout que la CSG est destinée quand même essentiellement à la santé. Et donc, l'idée, comme c'est les vieux et les retraités
qui dépensent le plus en termes de santé,
c'est absurde.
Ouais. Bon. Non, mais tout à fait.
Je demande à Gaël de me protéger parce que je ne vais pas sentir vivant de.
Bon.
Non, mais ça manque d'aplomb, enfin de réfléchir. Enfin,
ah oui, non, mais ça, c'est
enfin voilà.
C'est
au-delà ça, après sur l'assurance chômage, c'est pas le message qu'ils avaient donné.
Non.
Donc
c'est
enfin voilà,
c'est même l'inverse.
Voilà, c'est l'inverse.
L'avion a écrit dans Les Échos, on avait promis une politique contracyclique, on peut.
Mais ça marche du point de vue de l'opinion.
Oui,
c'est-à-dire que quand vous tapez sur les chômeurs, autant les Français sont très attachés à tout ce qui relève du social, même quand ils sont de droite, il y a un attachement profond à notre modèle social. Autant les chômeurs, comme on n'est pas au chômage en général, et comme on se dit qu'on ne le sera peut-être pas, et ben du coup on est moins solidaire avec les chômeurs qu'avec les retraités,
parce qu'on
sait qu'on sera un jour à la retraite à coup sûr.
Cette position est encore plus défendue par les retraités.
Non mais d'ailleurs,
c'est une vraie stratégie.
Mais ça d'ailleurs c'est une lecture très politique, mais elle a été faite à plusieurs reprises même ici. C'est sûr que aller dans la réforme de l'assurance chômage.
Non, soyons cohérents dans les messages. Quoi.
Et puis, au moment où
il
augmente,
le départ, il fallait faire. Et puis ensuite, il y a la question. Ensuite, on évalue et après, on va un cran plus loin. Mais là, on n'est pas du tout cohérent sur les messages. Et du coup, ça fait effectivement l'impression de panique. Mais il faut trouver, on glane quelques petits milliards à droite et à gauche.
J'en resterai là parce qu'on va passer au baromètre. Mais panique. On va entendre du relais à l'austérité, à la rigueur. Hier, Bruno Le Maire, il a dit non, c'est pas de l'austérité, c'est pas de la rigueur, c'est un frein d'urgence.
C'est
ce qu'avait dit Mitterrand. Hein.
Je donne deux éléments de sondage sur la panique. 10 points d'écart aux européennes entre la liste Bardella et la liste Renaissance. Ouais. Et dans tous les scénarios qui ont été faits sur des projections de présidentielles, on a le Rassemblement National au pouvoir. Donc, ça signifie que du côté de l'entourage du chef de l'État, et du côté du chef de l'État aussi, on multiplie les signaux d'action sur les aspects économiques, bien sûr, mais aussi pour des aspects politiques.
Oui, parce qu'il n'y avait pas de signaux sur les marchés,
en l'occurrence,
qui pouvaient vous faire craindre qu'à un moment donné, on ait une envolée des primes de risque.
Non, etc. On doit être à 50 points de base entre le spread France-Allemagne ou tout comme ça.
De ce point de vue-là, il n'y avait pas vraiment urgence.
Bon, le baromètre Doxa, JP Challenge, BFM Business. Je vous laisse nous le présenter comme vous le sentez, Gaël.
Oui, parce que c'est du lourd, comme on dit.
Je ne sais pas, il doit y avoir au moins une vingtaine d'entrées ou une quinzaine d'entrées.
Oui, il y a beaucoup d'entrées parce que on a choisi, à la veille de la journée du droit des femmes, on a choisi de s'intéresser à ce sujet et d'essayer de mesurer quelle était la perception des inégalités par les Français. Et quelles étaient les solutions envisagées, à quel point c'était important pour eux, est-ce qu'il y avait des facteurs qui pouvaient expliquer les inégalités qui persistaient, etc. Et donc pour cela, on a interrogé non pas un échantillon de 1000 personnes comme d'habitude, mais de 2000 pour avoir un échantillon de femmes, un échantillon d'hommes et voir les écarts. Alors, n'en déplaise à toutes les Sandrine Rousseau de l'Hexagone, on observe très souvent sur les questions d'égalité homme-femme qu'il n'y a pas de grande différence sur les perceptions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre des sexes dans notre pays. Il n'y a pas de haine de l'homme sur la femme ou inversement, et le sondage l'illustre parfaitement. D'ailleurs, s'agissant de cette journée internationale du droit des femmes, on a une immense majorité de Français qui accueillent ça, qui plébiscitent ce type d'initiative, hommes comme femmes, en estimant que favoriser la mixité, ce qui est l'objectif, c'est à la fois quelque chose qui est juste, qui est nécessaire, mais qui est efficace aussi pour les entreprises sur le plan économique. Et on a détaillé un certain nombre de questions qui montrent que dans la perception et dans la réalité aussi, on l'observe, on a un certain bénéfice, quand on regarde statistiquement, à avoir des femmes à la tête de certaines entreprises sur notamment la capacité à intervenir davantage sur les aspects, on le disait, d'environnement, de développement durable, etc., et de sujets RSE. On a 8 Français sur 10 surtout qui pensent qu'il existe toujours des inégalités entre les hommes et les femmes. Mais ce qu'on observe au fil des années, c'est pas la première fois qu'on fait ce sondage, c'est que le sentiment, surtout chez les hommes, moins chez les femmes, mais le sentiment général, c'est quand même que ces inégalités, elles tendent à s'atténuer.
C'est la vérité.
Hein. Oui, c'est bien sûr.
Ouais, c'est hier, objectif. Le baromètre Equilibre sur la place des femmes en entreprise il y a quelques jours, ça confirme que le compte n'y est pas, mais ça va mieux.
Bien sûr que ça va mieux, et bien sûr aussi qu'on a un problème de stock. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on démarrait dans la vie active, dans les années 70 ou 80, mettons 80 maintenant, des hommes et des femmes sur un pied d'inégalité, eh bien, les rattraper au fur et à mesure d'une carrière, c'est compliqué. Donc, ce qui compte, c'est que les générations qui démarrent aujourd'hui, elles vivent peu ou pas ces inégalités à niveau de diplôme équivalent, etc.
C'est très très vrai dans les chiffres de l'INSEE d'hier, c'est exactement ça. Mm-hmm. À moins de 25 ans, il n'y a presque pas d'inégalités, alors que celles qui sont installées, on a du mal à revenir.
C'est la maternité, généralement.
Ouais. Voilà. Alors, dans les sources d'inégalités persistantes, une fois qu'on a dit que dans une entreprise, pour le même poste, on donne le même salaire à un homme et une femme, ce qui se fait plus tôt, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on observe toujours, et l'enquête le montre de nouveau, c'est les inégalités liées à la parentalité. Là aussi, ça évolue énormément. Il y a 50 ans, les hommes ne s'occupaient pas du tout de tout ce qui relevait des tâches ménagères et quasiment pas des tâches qui relevaient de l'éducation des enfants, et les choses se sont rééquilibrées. Mais il n'empêche qu'il y a toujours les femmes qui s'en occupent davantage et que ça a une incidence quand il faut poser des jours de congé enfant malade, quand il faut s'arrêter pour s'occuper de son enfant, et ça a des incidences aussi au moment de la retraite. Et une fois qu'on a dit tout ça, sur le macro, on a voulu voir s'il n'y avait pas quelque part, Isabelle, des inégalités qui provenaient, même si ça s'explique aussi par des raisons macro, mais qui provenaient des femmes elles-mêmes. Et donc on a essayé de voir quel était notamment le sujet du risque, de la capacité à prendre des risques, à s'engager, à tester, à oser. Je ne sais plus si lequel des GAFAM disait « fail, fail again and then succeed ». Je me demande si ce n'est pas Zuckerberg. Et donc cette idée-là, elle est très ancrée dans la population. L'idée que prendre des risques, ça fait gagner. Et quand on regarde tous les éléments de prise de risque que tenteraient les hommes et les femmes, à chaque fois, il y a un gap énorme entre la prise de risque masculine et féminine. Je vais vous en donner un ou deux exemples dans l'étude qui sont assez édifiants. Donc, sur la prise de risque, on avait testé notamment l'idée de « Dans votre vie quotidienne, vous aimez prendre des risques. » On a moins de femmes que d'hommes, on a 5 points d'écart entre les deux. Vous prenez des risques régulièrement dans votre vie professionnelle, on a quasiment 10 points d'écart entre les hommes et les femmes. Vous demandez toujours de nouvelles missions ou responsabilités dans votre travail, là aussi on a des écarts. En climat social, je l'ai observé dans des enquêtes et dans ma vie personnelle, quand vous faites des entretiens d'évaluation de collaborateurs, hommes ou femmes, vous n'avez pas du tout le même retour. Vous l'avez peut-être vécu ici même, Nicolas, mais une femme, pour dire « oui, je prends le poste du dessus, oui, je prends la mission que vous me confiez », il faut qu'elle ait le sentiment qu'elle maîtrise à 95% ou à 100%. Mm-hmm. Un homme, il va vous dire « je prends la promotion parce qu'il y a la moitié des trucs du job d'avant que je sais déjà faire ». Donc, il y a cette différence-là.
Je le constate dans la perception des gens qui viennent dans cette émission entre les hommes et les femmes. Je l'avais d'ailleurs dit de manière un peu trash une fois, les bons hommes, c'est « je sais rien, mais je dirais tout
oui. ».
Et les femmes, c'est « moi, je sais ça, mais par contre, je ne parle que de ça ».
Oui, c'est ça.
Je le caricature, évidemment, mais voilà, je constate des différences hommes-femmes qui sont liées aux individus et pas du tout à de la macro, là, pour le coup.
Et on a enfin 62% des femmes qui nous disent, il y a plein d'autres résultats, mais je veux pas manger la feuille comme on dit au foot et vous laisser la parole aux uns et aux autres, mais vous avez 62% des femmes qui nous disent qu'elles ont déjà manqué des opportunités professionnelles par manque de confiance en elles. Et sur tous ces sujets, retenez qu'on a des écarts de l'ordre d'une dizaine de points entre les hommes et les femmes. Après, on a deux exemples amusants sur lesquels je rebondirai peut-être, mais je vais vous laisser réagir, sur l'aspect épargne notamment, où là, c'est très concret.
Ah oui, c'est très concret.
Et on voit l'énorme différence qui existe entre les hommes et les femmes. Donc, prendre davantage de risques. Alors, on fait ça avec AJP, c'est pas pour rien, parce qu'ils travaillent beaucoup avec des organismes, des think tanks comme Femmes Business Angels, sur comment faire pour davantage favoriser cette mixité et permettre aux femmes d'accéder à des postes à responsabilité dans les entreprises. Et ils ont identifié, eux aussi, depuis de nombreuses années, en tant qu'acteurs des sujets d'épargne, ces écarts entre les hommes et les femmes qui, finalement, à la fin, coûtent aux femmes.
Ouais, quand le rapport sécurité-rendement pour un placement, 62% des hommes optent pour la sécurité, 72% des femmes optent pour la sécurité.
Ah, il y a 10 voilà. points là-dessus.
Quitte à gagner.
Et quand on demande aux femmes, quand on vous parle d'un produit, qu'en matière d'épargne, comment percevez-vous les placements dits à risque ou dynamique, les femmes nous disent bien plus que les hommes, 10 points de plus. Je le vois avant tout comme un risque de perdre mes économies, plutôt que comme une opportunité de gagner plus d'argent. Ça fait 10 points de plus de frilosité, sachant que les Français, hommes comme femmes, sont beaucoup plus frilos que la moyenne des Européens sur ces sujets.
En plus. Mm-hmm. Réaction, Isabelle Job-Basile, Jean Ravet.
Je vais réagir.
Allez-y,
après toutes ces attaques. Voilà,
non, c'est pas du tout des attaques. Oui, enfin, c'est un peu en forme aussi de témoignage sur ces questions de risque, sur ces questions de carrière ou de prise de parole. Il y a vraiment de l'autocensure de la part des femmes. Ou alors cette idée de syndrome de l'imposture.
Ah oui, très bien.
Et je dois dire, comme j'en ai souffert, oui, on le sent très bien. Et je me rappelle, quand les premières fois je suis venue sur ce plateau, oui, j'avais l'impression d'avoir ce syndrome de l'imposture, de devoir parler de choses que je ne maîtrisais pas
à 100%,
d'avoir quand même des idées, même en tant que, de toute façon, de parler aussi en tant que citoyenne. Hein, d'abord citoyenne avant d'être économiste.
Oui, vous êtes au cœur de la chose économique.
Donc quand même avoir. Mais c'est vrai que ça c'est. Et je voyais mes camarades masculins qui, eux, n'avaient aucune difficulté à pouvoir jongler, à pouvoir passer d'un sujet à un autre. Ça se travaille. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est aussi que ça se travaille pour justement ne plus ressentir cette frustration quand on n'a pas eu l'impression de dire tout ce qu'on voulait, d'avoir l'impression d'avoir pas forcément bien répondu, etc. D'accepter, en fait, une forme d'acceptation aussi qu'on n'est pas parfaite, etc. Donc oui, ça se travaille. Et à cet égard, j'aimerais alors faire aussi de la publicité pour un ouvrage de Xavier Jaravel, qui s'appelle Marie Curie habite le Morbihan.
Oui, on en a parlé avec lui ici.
Voilà, où on parle, où c'est la question du, c'est la question de l'innovation. C'est comment on dit qu'en France on n'a pas assez d'innovation, etc. Et on se dit qu'en fait on se coupe de talent dès l'enfance. Dans les écoles, il faut travailler pour que les femmes, elles ne s'empêchent pas, elles n'aient pas cette inhibition d'aller dans des carrières scientifiques, d'innover, d'être entrepreneur demain. Mais ça se travaille, cette culture du risque, elle se cultive dès le plus jeune âge. Ouais. Et lorsque vous soulignez que, on est un peu plus averse au risque, mais regardez dans la petite enfance, un garçon va trouver ça très bien qu'il soit casse-cou.
Ouais. Non, mais bien
une
sûr.
Petite fille, on va lui dire qu'il ne faut pas qu'elle froisse sa belle robe. Donc, en fait, ça se travaille, ces biais se travaillent dès l'enfance. Et effectivement, sur l'école, dans les mesures que préconisait Xavier Jaravel, c'était très simple. C'est d'apporter des modèles féminins dans les écoles qui viennent témoigner. Ils se rendaient compte qu'avant et après, Le positionnement des jeunes filles était très différent et qu'elles étaient davantage prêtes à s'engager dans des carrières scientifiques ou en tout cas de prendre davantage de risques.
Et puis ça se travaille ça remonte très loin, ça se travaille dès l'école et même avant. On en parlera une autre fois dans une autre émission, mais on a aussi à l'école une sanction du garçon. C'est-à-dire que le modèle absolu dans l'école publique française, c'est la petite fille sage, plus que le petit garçon turbulent qui va avoir plein d'idées ou qui va faire. Et donc, on crée des modèles comme ça sur lesquels il faut travailler pour modifier la donne.
Je fais réagir juste Xavier Jaravel, il a intitulé ce livre Marie Curie habite le Morbihan, car c'est le département français où il y a le moins de femmes investies dans des études d'ingénieurs notamment. Et la certitude de Xavier Jaravel, c'est que devant les enjeux de transition numérique, on a absolument besoin de scientifiques et d'ingénieurs et qu'on ne peut pas se passer de la moitié de la population
qui décide
d'en rester loin. Réaction, Jean-Hervé Lorenzi, par rapport à ce qu'on vient de dire.
Réaction, d'abord, évidemment, les choses sont en train de s'améliorer. Moi, j'ai trois sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est les femmes en politique. Quand notre pays donnera toute sa place aux femmes... Moi, j'ai été collaborateur d'une femme Premier ministre, donc je sais à quel point c'était très difficile, bien au-delà des qualités et des défauts des hommes. La manière dont Mme Borne est repartie, c'est quand même, là aussi, par un succès total de l'équilibre politique dans notre pays. Donc, premier sujet, c'est la politique, parce que ça compte beaucoup dans notre pays, et une femme... Une femme à la tête du pays, ce serait quand même vraisemblablement une formidable nouvelle. Deuxième sujet, auquel on ne peut pas grand-chose, les Français, hommes et femmes, sont averses au risque dans l'épargne. Notre sujet, c'est comment on va financer. Donc, ça rend encore plus fort l'idée qu'on trouve des modalités, parce que les femmes jouent un rôle absolument majeur dans l'allocation des actifs d'une famille, parce qu'elles sont aussi, les femmes et les hommes, c'est pas tout à fait la même chose, elles pensent à l'avenir, elles vivent plus longtemps, donc elles sont prudentes et elles ont raison de l'être. Troisième sujet, sur les carrières scientifiques. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ce dit Xavier Jaravel. Parce que, quand vous allez dans un amphi, l'autre jour j'étais dans un amphi de médecine. L'ensemble de l'amphi, majoritairement, est composé de femmes. Ce ne sont pas des métiers qui sont des métiers particulièrement non scientifiques, bien évidemment non. Donc le sujet, il faut le traiter de manière plus subtile que juste ça. Je pense que le métier de médecin apparaît comme étant d'abord plus humain, plus il y a quelque chose qui est plus attractif qu'un métier d'ingénieur qui est dévalorisé dans notre pays. C'est le problème, c'est qu'il est dévalorisé. Enfin, il est dévalorisé d'ailleurs en termes financiers. Un jeune ingénieur, il gagne 50% de moins qu'un jeune financier. Donc ça joue quand même dans ces dispositifs. Et puis il y a la liberté de pouvoir exercer, avoir une trajectoire de vie personnelle qui est plus forte, j'imagine, dans les métiers de juge, dans les métiers d'avocat. Moi, enfin, mais d'avocat, je connais bien, j'ai beaucoup d'avocats. Donc, il faut être très attentif à cette affaire. Il n'y a pas que la petite enfance et le gamin turbulent, il y a aussi l'attirance qu'on peut avoir sur des métiers. Si on veut avoir, et Isabelle, tu as mille fois raison, on se prive de 50% de la capacité d'innovation dans le pays. Si on veut l'avoir, il faut rendre les métiers d'ingénieurs et scientifiques plus attractifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils le sont d'ailleurs pas beaucoup non plus pour les garçons qui se font après de la finance.
Donc, oui. Allez voir les chiffres de l'INSEE, on en parlait hier, hein, sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Les choses progressent, mais elles ne sont pas réglées. Et j'ai lu ce matin, Isabelle, que c'était dans la finance où les inégalités étaient les plus fortes entre hommes et femmes.
J'ajoute qu'on entend souvent parler du 24% d'écart.
C'est global,
c'est ce que je voulais dire, c'est que ça n'intègre pas les différences de temps passé pour les temps partiels. On n'en est pas tout là, évidemment.
Même poste,
ça c'est un vrai sujet.
On a fini, mais même poste, même entreprise, 4%. Et dans les embauches aujourd'hui, les choses ont pris. Merci Nicolas de parler enfin de la mainmise des vieux sur les finances publiques avec Kid David. Bon, eh bien écoutez, Isabelle Job-Basile, merci d'avoir été là. Jean-Yves Lorenzi. 14h30 à la Score, le bien vieillir, égal Simon pour le baromètre d'Oxa à JP. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.